la première des vadrouilles de Maître Renard, nous avons un invité exceptionnel, un guide professionnel, un guide qui s'appelle Vincent, et qui fait visiter le pont de Millau. On sait très bien de commencer par un pont, cela relie les hommes, alors on va tout savoir, et plus que tout, grâce à Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Merci. Et voilà, donc moi j'emprunte souvent ce pont pour aller à Toulon, lorsque je descends en voiture, et je le trouve beau, je le trouve aérien, je le trouve esthétiquement très bien intégré dans le paysage. Cette impression, est-ce que les Ardéchois, puisqu'il est en pays d'Ardèche, les Ardéchois ont toujours eu ce sentiment, et est-ce que vous êtes fier de cette réalisation qui a été inaugurée quand exactement ?
Alors, il a été inauguré le 16 décembre 2004, et ce sont les Aveyronnais, hein, je me permets de...
Ah oui, oui, pardon, Aveyronnais, voilà. Pas Ardéchois, évidemment.
Voilà. Alors, ils ont été assez surpris, puisque depuis des années, on parlait de ce fameux tronçon autoroutier qui faisait défaut, qui manquait, et qui allait mettre un terme au bouchon dans la vallée, mais on ne le voyait toujours pas. Et donc, ils ont été très surpris déjà de voir commencer la construction de ces gigantesques piles de béton armé. Et derrière, il s'inquiétait de voir un ouvrage colossal traverser la vallée qui défigure le paysage. Donc c'était plutôt des inquiétudes hein, au départ.
Voilà. Et c'est qui l'architecte, le réalisateur ?
Alors c'est Norman Foster, hein, le Britannique, hein, un architecte assez renommé, qui va bien sûr devoir embellir l'ouvrage, mais tout en ayant l'accord des ingénieurs, hein, évidemment, un en particulier, Michel Virlogeux, qui était l'ingénieur en chef. Hein.
D'accord. Et il a fait quoi d'autre, cet Anglais
Foster a fait le carré d'art à Nîmes. Il était plutôt, lui, sur des... pas vraiment des ponts, hein, des viaducs, hein, plutôt des édifices, des gratte-ciel et autres. Voilà, plutôt des tours de verre et d'acier, des structures assez légères, aériennes. Et c'est pour ça qu'il a été, d'ailleurs, un petit peu démarché. C'est parce qu'on voulait un ouvrage aérien léger qui s'intègre à cette belle vallée du Tarn.
D'accord. Donc ça fait 14 ans qu'il est en service. Il a été construit en combien de temps ? Ça fait une vingtaine d'années en gros.
3 ans jour pour jour pour les travaux, mais au préalable il y a eu 14 années d'études, hein, des études qui ont coûté plus cher que la construction de l'ouvrage même hein, en fait.
D'accord. Et c'était pour la faisabilité, l'environnement, le fait que les piles...
Oui, dans un premier temps, le choix du tracé idéal hein, pour relier les deux tronçons autoroutiers séparés l'un de l'autre, là, qui causaient les bouchons dans la vallée. Hein, on devait passer par Millau pour reprendre plus tard l'autoroute. Hein, donc dans les deux sens, hein, sud-nord et nord-sud, hein, tout le monde affluait en ville. On avait en moyenne 3 heures de bouchons quand même, certains jours d'été. Hein, c'était catastrophique alors qu'on est sur une commune de 20 000 habitants. Hein. Voilà, donc ça a été quand même assez compliqué déjà de trouver l'endroit où passer. Et derrière, de multiples appels d'offres, des bureaux d'études, d'ingénieurs, les constructeurs aussi qu'il faudra démarcher. Voilà.
D'accord. Et est-ce que 14 ans après, ou 28, presque 30 ans au total, oui, plus de 30 ans après, on considère ce viaduc, comme moi, comme une totale réussite, ou il y a des défauts, il y a des choses qui...
Alors, réussite dans la mesure où il a accompli sa mission, hein, on n'a plus les bouchons dans la vallée, ça c'était la priorité, hein, il est très vite déclaré d'utilité publique, hein, cet ouvrage d'art, et après, en termes d'intégration... là, disons que c'était un petit peu le coup de bluff, on va dire, hein, puisque beaucoup de gens s'inquiétaient à l'annonce des chiffres, hein, la hauteur de la pile la plus haute du monde, 245 mètres hein, en béton armé. On pensait qu'une verrue là allait être implantée au milieu de la vallée et pas du tout au final. Donc là aussi, mission accomplie. Hein.
Et Vincent, tu faisais partie des sceptiques à l'époque ?
Alors, je ne travaillais pas encore pour la société qui a construit le viaduc, hein, donc j'étais moi guide dans un château médiéval, hein, dans la construction beaucoup moins contemporaine, on va dire. Et oui, quand j'ai vu démarrer le chantier, avec toute la vallée qui avait été aménagée avec les plateformes de chantier et les piles qui s'élèvent, on ne peut que se dire mais qu'est-ce qu'ils nous font ? Ça va être la catastrophe. Hein, donc j'ai été moi-même bluffé, je l'admets.
D'accord. Et donc, et ça a été le sentiment général de la population. Et tout le monde a été retourné ou il y a encore des opposants il y a des gens qui trouvent que le viaduc...
Des opposants, si on en cherche, hein, on en trouve toujours, puisque bon, il y avait plusieurs tracés envisageables, hein, comme on l'a évoqué. Et certains auraient préféré voir l'autoroute s'éloigner de Millau éventuellement, hein, et non pas s'en rapprocher. Donc on peut toujours trouver...
D'accord, mais c'est sur le tracé, c'est pas sur l'édifice lui-même.
L'édifice lui-même, alors, on peut difficilement faire plus simple, plus élégant.
À part le pont de Normandie, peut-être qui
Oui, sont... éventuellement, mais ils se ressemblent énormément, hein, ils ont énormément de points communs, hein, d'ailleurs.
Ah, tout à fait.
Oui. Mais à la fin, très peu de contestations
D'accord.
de cet ordre.
Et touristiquement, il apporte quoi à votre département ?
Alors, touristiquement, pendant les travaux, énormément de touristes vont affluer à Millau, hein, pour voir ce viaduc pendant sa construction, qui est très médiatisé. Donc ça va suivre, hein, même dans des pays à l'étranger. On accueillait chaque année sur Millau, on pense un peu plus d'un million de visiteurs qui venaient suivre le chantier. Hein. Voilà. Alors les élus locaux sont très surpris de cet engouement. Hein. Et personne ne l'avait anticipé, hein, d'ailleurs. Et on est aujourd'hui sur un tourisme qui s'est un peu plus saisonnalisé, maintenant que la construction est achevée depuis plusieurs années. Les touristes viennent plutôt en haute saison, pendant les vacances scolaires, et non plus sur toute l'année, comme c'était le cas pendant les travaux.
D'accord, et en chiffres, ça donne quoi
Sur l'aire du viaduc de Millau, hein, l'aire d'autoroute, on accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs, entre 300 et 400 000, hein, me semble-t-il. Donc c'est moins que pendant les travaux, il n'y a plus cette médiatisation qu'on a eu par le passé, et beaucoup de gens l'ont vu, mais il attire toujours les foules, hein, et reste un des attraits majeurs, hein, du département, quand même. Hein.
Oui, quels sont les gros centres d'intérêt du département en dehors du viaduc ?
À l'Aveyron, c'est un département assez rural, hein, donc en dehors de Millau, on a la ville de Rodez, hein, la préfecture, hein, qui est la ville la plus importante du département. À Rodez, en dehors de la cathédrale, on a depuis peu le musée Soulages, hein, Pierre Soulages.
Ah oui, oui, c'est pas rien. Renommé.
Voilà, et ce musée fera un succès. Mais en dehors de cela, c'est plutôt du petit patrimoine, hein, alors de petits châteaux forts, de belles chapelles bien préservées, conservées. Mais il n'y avait pas de pôle d'attrait majeur et d'envergure, peut-être.
Et tu étais dans quel château lorsque tu...
Alors, le château de Montaigu, c'est un petit château médiéval à moins d'une heure de Millau, dans le sud d'Aveyron. Hein, voilà, château assez modeste, hein, avec une histoire locale, hein, assez riche, hein, qui a été restaurée. Donc, on faisait des visites à la fois sur la restauration de ce château qui tombait en ruine et sur son histoire. Hein, voilà, mais je ne m'imaginais pas du tout travailler pour un ouvrage après aussi moderne que le viaduc.
Alors justement, ton histoire, comment a-t-elle croisé celle du viaduc ? Parce que
plusieurs concours de circonstances, le destin, hein, peut-être qu'on va l'appeler. Donc j'ai appris à une période où je cherchais du travail, puisque j'avais quitté le château de Montaigu, que le groupe Eiffage a recruté sur Millau des guides pour parler d'un ouvrage d'art en béton et en acier. Alors j'étais très surpris, puisque je me disais, mais que vais-je raconter pendant une heure sur une structure en béton et en acier? Bon, ma foi, ils me le diront, hein, c'est ce que je me suis dit, et j'ai tenté ma chance, hein, je pensais pas que mon BTS tourisme me mènerait là, et ça s'est fait, et puis pour finalement constater qu'aujourd'hui encore, j'apprends énormément de choses sur cet ouvrage, et que ce n'est pas figé. Donc c'est vraiment sympa, puisque on n'a pas de limite, hein. Il évolue, il vieillit, il bouge par rapport au vent, la dilatation, il y a toujours des choses à apprendre, et ça c'est fabuleux.
Et qu'est-ce que tu essayes de transmettre, justement, un message essentiel aux touristes qui viennent t'accompagner?
Alors, on a des touristes assez divers et variés au niveau des profils, et donc bon, on s'adapte à la demande, et bon, les questions que l'on a le plus souvent, c'est pourquoi construire un ouvrage aussi haut. Là, on essaie de leur parler de l'impact sur l'environnement qu'aurait eu une autoroute qui serait passée au fond de la vallée, avec des tunnels qui auraient saccagé les plateaux et la belle vallée du Tarn. Hein. On est quand même ici dans le parc naturel régional des Grands Causses. Il y a un message un peu écologique, hein, déjà. Et puis la fabuleuse aventure humaine aussi. Hein. Alors ça, c'est un des côtés qui force l'admiration, hein, chez le public. Hein. Les comment travaillent les ouvriers, les risques, ce qu'ils ressentent aujourd'hui après avoir construit cet ouvrage qui est une référence. Voilà, l'admiration, voilà, la curiosité qui est permanente.
Et toi, et toi-même, est-ce que tu as les mêmes frissons, les mêmes émotions? Moi, quand je vais à la cathédrale de Chartres, que je fréquente très souvent, évidemment, ou alors le port de Toulon, que je fréquente aussi très fréquemment, je n'arrête pas de vibrer et je ne m'en lasse pas. La cathédrale, on peut pas s'en lasser. Je sais pas comment on pourrait s'en lasser. La Méditerranée, je sais pas comment on peut s'en lasser. Ça te fait la même chose quand tu vois ce viaduc que tu vois tous les jours, quoi.
Ouais, tous les matins, oui, quand je vais travailler, je lève les yeux, il attire le regard, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais du coup, je pense que c'est plutôt une réussite.
Oui, parce qu'il a des lumières le matin, ça va être extraordinaire.
Voilà, des jeux de lumière différents, de la lumière différente sur les haubans, sur le béton, selon les saisons aussi, quelles que soient les saisons, voilà, il est là et très bien intégré dans son environnement, c'est assez surprenant.
Et en hiver, il ne pose pas de problème parce qu'il doit faire froid chez vous et la neige, ça ne doit pas être rigolo.
Alors, on doit évidemment saler les chaussées s'il givre ou s'il neige, d'autant plus qu'on a une structure avec un tablier entièrement métallique, hein, donc il va longtemps garder aussi bien le chaud que le froid. Et si nécessaire, on peut faire intervenir aussi nos services de déneigement. Hein. On a une entreprise qui est d'astreinte, hein, en cas d'alerte météo de grand froid, hein, et qui est là pour déneiger le viaduc en très peu de temps. Le problème est plutôt que le viaduc, lui, sera déneigé avant le reste de l'autoroute, oui, qui est géré par la DIR, par l'État.
Alors, je te confirme, parce que moi, une fois, je suis parti du sud de Clermont-Ferrand, et on était à 20 à 30 km heure sur une file jusqu'au viaduc. Après, on a passé le viaduc, bon, et après, c'était plus au sud, donc c'était... Mais la difficulté n'était pas le viaduc lui-même, c'était bien avant, il neigeait, il y avait de l'altitude, et il y avait des congères et des voitures dans tous les sens. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu parlais du profil des touristes, Vincent. C'est essentiellement des touristes français ? Est-ce qu'il y a des étrangers ? Est-ce qu'ils ont une perception différente de l'édifice ? Comment ça se passe ? Quel est le profil, les profils
Alors,
des
on
touristes ?
On a majorité des Français. On a dernièrement beaucoup de scolaires, puisque les ouvrages d'art sont au programme en technologie au collège et lycée. Donc on a une clientèle qui a un petit peu changé là dernièrement, hein. On recevait les premières années beaucoup de groupes du troisième âge pour là partir sur des publics beaucoup plus jeunes et qui ne posent pas forcément les mêmes questions que les groupes du troisième âge, hein. Des Français en majorité, après on a des gens qui viennent des quatre coins de la planète, hein. On a souvent des Australiens, des Américains, quelques Asiatiques aussi. Voilà, donc
mais ils ne font que passer, ils viennent pas pour l'ouvrage même. D'ailleurs, dans le secteur, tu as le viaduc de Gabarit, il y a d'autres ponts intéressants.
Oui. Voilà, donc en effet, ils sont attirés par les ouvrages d'art. Le tourisme industriel, j'ai l'impression, hein, passionne beaucoup les gens de ces pays, hein, alors qu'en France, c'est peut-être arrivé un petit peu plus tard.
D'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu leur dis tu peux nous donner les caractéristiques quand même de cet ouvrage, parce qu'on en parle, tout le monde le connaît, tout le monde n'est pas forcément n'est pas allé sur place, tout le monde, on a entendu parler, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut le définir déjà par ses caractéristiques, longueur, portée, etc.
Le record, hein, qui est un record mondial de hauteur, hein, c'est la pile numéro 2, hein, qui culmine à 245 mètres, hein, sous le tablier, qui est la pile pont et viaduc confondu, la plus haute du monde. Hein, donc déjà, on est sur une structure très haute, très élancée. En termes de longueur, on a des ponts beaucoup plus longs, hein, puisqu'ils ne mesurent entre guillemets que 2 km 460. Hein, on a des ponts qui font 40-50 km sur la planète. Hein,
oui, du côté de San Francisco, je suppose, des trucs comme ça. Au Japon, peut-être.
Voilà, au Japon, en Chine aussi, hein, ils s'y mettent, hein, évidemment. Voilà, nous, le record est sur la hauteur. La difficulté est de construire haut et pas sur la... forcément forcément sur la longueur. Hein. La difficulté est technique à ce niveau-là.
D'accord. Et est-ce que les contraintes de climat, justement, qu'il y a chez vous, notamment du gel, du froid, et surtout du vent, parce qu'il y a, comme dans tout, comme sur les voiliers, les haubans, les câbles, ça bouge, et ça peut bouger beaucoup, et ça peut apporter des perturbations. Est-ce que vous avez, il y a des, donc c'est mobile, un pont, c'est, enfin, ça, c'est pas un truc qui reste immobile, il y a beaucoup de contraintes par rapport au climat. Qu'est-ce que vous avez comme contraintes particulières et comment vous les combattez, ces contraintes?
Alors nous, c'est surtout le vent, hein, en effet, qui pourrait éventuellement engendrer l'arrêt du trafic, hein, la fermeture de l'ouvrage, hein, momentanément. Alors pour l'instant, depuis un peu plus de 13 ans que Viaduc est là, on n'a jamais atteint le seuil limite, hein, où il faudrait fermer l'ouvrage. Hein. Donc il faudrait une moyenne de 140 km/h de vent, des rafales à 170-180 km/h pour décider de la fermeture générale. Et le maximum qu'on ait eu, hein, de mémoire, c'était en 2010, lors de la tempête Xynthia, des rafales de 130 km/h. Donc on était encore loin, hein, de la moyenne de 140. Hein. On n'avait pas donc fermé le trafic même.
D'accord, c'est juste fermé, c'est pour...
avec alors oui, on dévie momentanément les véhicules. Le problème est que si on a une tempête en période où il y a beaucoup de trafic, pendant des fériés ou l'été, on dévie les véhicules dans Millau et donc là, on a encore les bouchons. Hein. Donc l'ouvrage a été paramétré pour éviter de le fermer le plus souvent possible. Hein.
À cause de la prise au vent, je suppose que c'est les camions qui posent le plus de problèmes, non?
Alors les camions dépassent légèrement les écrans brise-vent qui sont sur les côtés, donc ils sont un petit peu plus sollicités que les voitures. Hein. Donc il se pourrait qu'on leur interdise le passage, hein, pour des questions de sécurité, avec des vents un peu plus modérés. Hein. Voilà.
D'accord. Une question qui n'a rien à voir mais qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de faune, d'animaux autour de ce pont spécifique, des oiseaux, des...
Oui, puisqu'on est dans le parc naturel régional des Grands Causses, hein, donc on est sur une nature assez préservée. Hein, et donc c'était l'inquiétude alors, aussi de certains groupes écologistes, hein, qui pensaient que l'ouvrage aurait un gros impact, hein, sur la faune et la flore. Hein. Donc c'est pas du tout le cas, puisque on croise très souvent, pas loin des piles de l'ouvrage, du gibier, sanglier, biche. Donc la nature s'est vite réappropriée les lieux. Et il n'y a pas de bruit, de nuisance sonore. Hein, l'ouvrage passe si haut, hein, par-dessus les plateaux, qu'on n'a aucun bruit dans la vallée. Voilà, donc ça ne gêne absolument pas les animaux. On a même des oiseaux de proie qui nichent en haut des... des piles, des chauves-souris qui passent par-ci, par-là.
Oui, ils en profitent. Voilà, ils profitent du pont.
Très peu d'impact. Voilà.
Très peu d'impact. Pas très peu d'impact négatif, puisqu'ils se sont priés, c'est plutôt un impact positif.
Oui, ce sont des impacts plus positifs, là, entièrement. Oui.
D'accord. J'avais une autre question un peu de cet ordre-là, donc concernant la nature. Ah oui, non, un peu décalé, mais ça fait rien. Moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres. Ils circulent. Vous circulez la nuit? On peut circuler dans le pont de Millau? Ou c'est fermé la nuit?
Oui, oui, la nuit. Alors, il n'y a pas d'éclairage à part un éclairage architectural, hein, mais ce n'est pas un problème. Hein. C'est une autoroute tout à fait aux normes. Hein. On a deux fois deux voies avec des bandes d'arrêt d'urgence. On a même un passage sécurisé au-delà des bandes d'arrêt d'urgence où on peut se mettre à pied derrière cette glissière renforcée en ne risquant absolument rien. Donc on a l'impression d'être tout à fait sur une autoroute normale. Hein, et donc la nuit ne pose pas de problème. Hein. Donc, le seul élément vraiment qui pourrait perturber un jour le trafic, c'est le vent. Hein.
D'accord. Il y a eu des incidents plus ou moins notables sur justement des collisions liées au vent ou je ne sais trop quoi. À un camion qui peut se mettre en travers, parce que ça peut arriver n'importe où.
Alors, au niveau des camions, pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Hein. On a eu beaucoup plus de problèmes avec les automobilistes, hein, les premières années de mise en service, qui n'avaient pas vraiment compris que c'était une autoroute, hein, et qui s'imaginaient avoir le droit de s'arrêter sur le bas-côté et de se promener derrière la glissière de sécurité.
Et on peut pique-niquer également.
Voilà, et éventuellement, si on leur laisse le temps où ils peuvent sortir. sortir la glacière et le parasol.
Ouais, ouais,
il faut vite intervenir.
Bien sûr,
donc,
oui.
Voilà. Donc, on avait à peu près 200 interventions par an, hein, les deux premières années de mise en service, 200 jours avec intervention nécessaire, hein, sur les 365 de l'année, pour évacuer sur les bas-côtés, justement, les promeneurs, les photographes amateurs, et les base jumpers, hein, ceux qui ont des parachutes
Prêts
à sauter, qui veulent ouvrir le parachute au dernier moment.
Oui, c'est leur bon plaisir. Tellement drôle.
Voilà, oui, s'ils atterrissent bien, c'est drôle. Hein, oui.
Voilà. Moi, je voudrais signaler, parce que je l'ai utilisé, il y a un petit restaurant dont je ne connais absolument pas le nom et je ne suis pas payé par ces gens-là, mais qui est absolument délicieux, adorable, parce qu'il y a des produits locaux et on mange très bien pour pas cher. Enfin, voilà, c'est... Comment il s'appelle le petit restaurant qui est en contrebas, qui est dans l'air? Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Alors oui, sur l'air, donc, on a le restaurateur Michel Brass, hein, qui a ouvert un petit espace gourmand assez...
Ah oui, voilà, espace gourmand.
Pour une aire d'autoroute.
Ah, espace gourmand, oui, d'abord.
L'espace gourmand, voilà, de Michel Brass, où il fait des capucins.
Voilà, c'est
donc
bon.
C'est une sorte de pâte à crêpes, donc la recette est secrète, hein, évidemment,
ouais.
Qui est garnie de produits locaux, hein, de l'Aveyron.
Tu salueras toute l'équipe, parce que j'ai mangé là-bas, je me suis absolument amusé à faire des poèmes à tout le monde et à rigoler comme d'habitude.
Oui.
Excellente, mais j'ai bien mangé pour vraiment pas cher, des produits locaux, parce que d'habitude, c'est un peu comme les TGV ou les aires d'autoroute du temps de Jacques Borel, c'était immangeable et cher, tandis que là, il faut s'arrêter, parce que c'est un moment de détente, c'est délicieux, c'est pas cher, c'est gourmand, c'est vraiment gourmand.
Oui, alors là, on a aussi, entre guillemets, pas trop le choix, parce que cette aire, hein, il faut bien comprendre que cette aire est située sur le viaduc, hein, sur un lieu de passage très fréquenté, et la vitrine un peu de l'Aveyron, hein, quelque part. Et donc, on a évidemment, dès le départ, souhaité proposer des produits locaux, du terroir, et surtout de qualité.
Eh, hein, ben, voilà. C'était une bonne idée, parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est quoi vos spécialités dans l'Aveyron? Vends un petit peu ton département, en plus du viaduc. Qu'est-ce que... pour toi, l'Aveyron, qu'est-ce qu'il faut d'abord par la gastronomie locale, qu'est-ce qu'il faut manger et après éventuellement qu'est-ce qu'il faut voir?
Alors, l'Aveyron, hein, et les quelques départements limitrophes, là, hein, on fait ce qu'on appelle l'aligot, hein, donc qui est une spécialité à base de pommes de terre et de fromage. Hein, alors, ce n'est pas une simple purée au fromage, c'est beaucoup plus calorique. et la préparation traditionnelle, hein, est assez impressionnante, hein, puisque dans un grand chaudron avec une grande cuillère en bois, hein, le cuisinier n'arrête pas de touiller cette préparation très filandreuse. Hein, voilà, donc on le voit lever les bras.
C'est une espèce de fondue.
Hein, voilà, un petit peu en quelque sorte.
Fondue,
hein, voilà.
Avec des patates. Quoi.
Voilà, des patates. Hein, on mange ça avec de préférence de la saucisse, mais pas...
Ouais.
Forcément,
ah
un peu, hein. Et c'est très calorique, hein. Voilà, les
non, mais ça,
les
on s'en fiche. C'est très bon, Vincent. C'est pas très calorique, on s'en fout. Quand c'est bon, c'est bon.
Oui.
Après, et qu'est-ce que vous mettez accompagné avec quel vin rouge, par exemple?
Ah, alors, les vins rouges, disons que sur l'Aveyron, il n'y a plus trop de vignobles, hein, puisque suite à la grosse épidémie de phylloxéra, là, du début du siècle, passé, il y a eu beaucoup de pertes, hein, au niveau des vignobles, et on en trouve très peu dans l'Aveyron. Donc il en reste quelques-uns.
Vous buvez quoi en clair?
Alors nous, on a ici ce qu'on appelle les côtes de Millau, hein, quelques vignobles du coin. On peut en trouver quelques-uns de très bien. Hein.
D'accord, mais en rouge, c'est du
rouge,
bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité en dehors de l'aligot?
Alors on a aussi la truffade, qui un peu comme l'aligot est une préparation à base de pommes de terre et de fromage. Hein. Énormément de fromage de brebis. On a évidemment le Roquefort, hein, dans l'Aveyron.
Ah oui, ah, le Roquefort. Oui.
Voilà.
Ah,
oui. Le Roquefort qui est à 30 minutes de Millau. Hein,
on peut dire même les Roquefort, parce que
les Roquefort, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs
saveurs. Hein,
ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange sous plastique dans les supermarchés.
Ah non, là c'est du pur terroir.
Ah oui, non, mais de vraies brebis, parce qu'il n'y a que des brebis chez vous.
Et oui, on a beaucoup de brebis qui justement sont élevées pour produire du lait pour Roquefort.
D'accord, bon, j'ai faim. Peut-être une dernière question, si... Oui, j'ai le temps, oui, ça va. en résumé, en une phrase ou deux ou un paragraphe ou trois ou cinq, t'as le temps, tu fais ce que tu veux d'ailleurs. ton pays, l'Aveyron, là, et ton viaduc préféré, oui. Tu peux nous le vendre encore un peu mieux pour inciter tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le croiser, de le voir, de parcourir
Oui, bien sûr. Alors déjà, le viaduc lui-même, hein, le voir à la télé, c'est quelque chose. Hein. Il y a eu beaucoup de reportages sur l'ouvrage, mais le voir en vrai, c'est encore autre chose. Hein. Donc ça.
Oui, parce qu'il manque le vent, et sans le vent, c'est comme la pointe du rat, on comprend que dalle.
Voilà, donc il faut vraiment venir sur place pour comprendre, hein, et admirer le l'ouvrage. Et puis le département lui-même, après, on a...
une très belle lumière,
qualité de vie qu'on ne retrouve plus forcément maintenant sur la côte. Hein. Voilà, on peut manger très très bien sans dépenser des fortunes. Les Aveyronnais sont d'un tempérament assez agréable et courtois. Voilà, dans un cadre quand même assez magnifique, et un département assez grand au décor très varié. Donc c'est pour moi un lieu de vacances idéal, même si j'y vis toute l'année et que je n'y suis pas en vacances, c'est parfois un peu l'impression que j'ai.
D'accord, voilà. Parce que c'est assez rustique, comme on dit, russe, le
mot,
c'est la campagne, c'est campagne.
C'est très rural, hein, voilà, mais pour ceux qui ont besoin de s'évader de la ville, ou voir autre chose que la côte méditerranéenne qui est surpeuplée l'été, ouais.
Vraiment... Mais il y a des odeurs qu'on a que chez vous, quoi.
Et oui, tout à fait, hein, de par la présence des plateaux et de la variété au niveau de la faune à proximité de la ville, c'est très parfumé.
Oui. Bon, merci Vincent, parce que voilà, on a parlé, on a évoqué, on a ouvert une piste, on a ouvert un pont, et on invite tout le monde à aller voir ce pont, si curieux, si pittoresque et inoubliable. Je le referai volontiers, je reviendrai te voir dès que je pourrai. On en parlera encore plus précisément. C'est une vraie bouffée d'oxygène, l'Aveyron et ce viaduc de Millau. Et merci à toi, Vincent.
Merci, Maître Renard, et nous vous attendons dans l'Aveyron.
Merci, merci.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.